Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante concernant croire, comme le dit l'Écriture sainte. Nous arrivons à l'étude numéro 6 et nous avons encore quelques questions qui sont délicates. C'est important d'avoir l'ensemble. La raison pour laquelle les hommes et les femmes gaspillent leur temps et leur argent à soigner des corps qui ne sont que d'éphémères supports à leur être véritable, qui est l'âme, laquelle vivra longtemps après que ces enveloppes charnelles seront tombées en poussière. L'âme est d'une valeur infinie. Jésus demande « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Saint Marc, chapitre 8, verset 36. Selon lui, notre âme a plus de valeur que le monde tout entier. Pensez à ceci qui concerne votre bien le plus précieux. Y a-t-il un Dieu? La Bible est-elle la vérité? Dieu est-il miséricordieux? Malgré que ces questions se répètent, elles sont de la plus haute importance. Oui, comment savoir si Dieu existe? Je suis convaincu que Dieu existe. Peu importe maintenant que je me sois efforcé d'essayer de prouver le contraire, je voulais croire qu'il n'y avait pas de Dieu. Mais cette douce et petite voix me répétait sans cesse que j'avais tort. Certains ne croient pas en Dieu, mais les problèmes d'incrédulité sont bien plus grands que ceux de la croyance. Car pour croire que la matière inerte, inanimée, a engendré la vie, l'esprit et la conscience, et que le chaos du hasard a engendré un cosmos ordonné, il n'est nul besoin de la foi, mais il me semble plutôt de la crédulité. La Sainte Bible dit dans le psaume 14, verset 1, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Envisageons ceci sous un autre angle. Nous sommes dans un aéroport et nous observons un avion qui va se poser. Je vous dis, la plupart des gens pensent que cet avion a été construit selon des plans soigneusement établis. Mais aucune intelligence n'y a vraiment travaillé. Car d'une étrange façon, le métal est simplement sorti de terre et s'est transformé en feuilles d'aluminium ou d'autres métaux, et après quelque temps, elles ont commencé de grandir et de former un corps, des ailes et une queue. Puis l'engin s'est mis à pousser et un jour, les hommes ont trouvé cet avion terminé et prêt à voler. Oui, vous penseriez que je suis un peu fou, parce que vous savez très bien que là où il y a un plan, c'est un dessinateur qui l'a tracé et que cet avion a été conçu par l'intelligence humaine, fabriqué par le savoir humain. Quoi qu'il en soit, beaucoup nous disent que l'univers entier est le fruit uniquement du hasard, que aucune intelligence n'y a travaillé. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, mais simplement la nature. les athées présentent un plan sans dessinateur, ils présentent une création sans créateur, des effets sans la cause. Tout le monde croit à la loi de la cause et de l'effet, chacun devenant la cause d'un effet différent. Or cela nous oblige à admettre qu'il y a eu un commencement. La cause première est Dieu. Voyez-vous, une chose créée d'une manière aussi parfaite que notre terre et l'univers doit avoir eu un constructeur, un maître dessinateur. Une chose aussi ordonnée et parfaite, équilibrée avec tant de précision, aussi majestueuse que cette création ne peut être que le produit d'une idée divine. Le professeur Conklin a dit « La probabilité de la vie créée par accident équivaut à celle de la création d'un dictionnaire à partir de l'explosion d'une imprimerie. Or Dieu existe, que les hommes choisissent de croire ou non en lui. La raison pour laquelle beaucoup ne croient pas est que croire en Dieu, cela les obligerait à réaliser qu'ils lui doivent des comptes. Ah, ça change tout. Ils ne veulent pas le savoir et préfèrent trouver refuge dans l'athéisme ou l'agnosticisme. Ce n'est pas que je ne peux pas croire en Dieu, disait-il, mais ils sont tout de même honnêtes en disant « je ne veux pas croire ». Je ne veux pas croire en un Dieu que j'ai jamais vu. C'est cela, la vérité. En examinant un objet que j'ai fabriqué, un détective perspicace peut dire beaucoup de choses à mon sujet, mon savoir-faire, mes habitudes et mon caractère. Nous pouvons apprendre beaucoup sur Dieu en étudiant l'univers qui est l'œuvre de ses mains. Mais le détective qui examine ce que j'ai fait ne peut en aucun cas prétendre qu'il me connaît. Il faudrait que je lui dise ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais, et seulement alors il pourra me connaître. De même, si Dieu veut se faire connaître, il doit révéler ses pensées, ses désirs et ses intentions. Une autre question. La Bible est-elle vraie? Il n'y a qu'un seul livre qui nous parle de Dieu, et c'est la Sainte Bible. C'est un livre si important qu'il nous faut absolument le lire. Un juge ne doit pas prendre des décisions en cours d'audience. Et nous, comme le juge, nous devons comparer les preuves et rechercher la vérité. La Sainte Bible est composée de 70 livres écrits par au moins 40 hommes différents sur une période de 1600 années en des lieux aussi lointains les uns des autres comme Babylone et Rome. Avec tant d'auteurs, on pourrait s'attendre à bien des différences. Mais l'unité de la Sainte Bible est extraordinaire, car chacun de ces livres est en harmonie avec les autres. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, explique la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Et les prophéties se sont réalisées des centaines d'années plus tard. Par exemple, au chapitre 53 Ésaïe prédit la mort de Christ avec un minutage précis plus de 700 années avant sa crucifixion. 333 prophéties nous parlent du premier avènement de Jésus-Christ. Il est plus difficile de mettre en doute les livres que de le croire. La Sainte Bible dresse un modèle de perfection que je n'ai jamais atteint. Elle ne dit pas que le modèle divin est le péché. Dieu connaît jusqu'à vos pensées secrètes, ou si réfléchissez à ceci. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 37. Avez-vous toujours fait ainsi? Placez-vous Dieu au-dessus de toute chose? Personne ne peut prétendre être aussi parfait. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, le premier. C'est écrit dans Romains chapitre 3, versets 10 à 23. Oui, tous sont incapables de parvenir au modèle de Dieu. Si Dieu avait placé si haut le modèle de la sainteté que nous ne puissions l'atteindre, nous condamnerait-il pour notre échec? Est-ce qu'il nous condamnerait parce qu'on n'a pas pu atteindre le niveau on top? Mais Dieu n'a pas établi le modèle de sainteté, car il est lui, ce merveilleux modèle. Il est donc absolument saint. Dieu est saint dans toutes ses affaires avec les hommes. Ma conscience et le bon sens commun tout simplement, me force à admettre que j'ai manqué d'atteindre au modèle divin de la sainteté parfaite. Par conséquent, je suis un pécheur. En reconnaissant que j'ai péché, je peux voir la condamnation de Dieu, car l'âme qui pêche mourra. Voyez-vous, en Grande-Bretagne, pas seulement en Grande-Bretagne, en Suisse, c'est pareil. Les conducteurs doivent rouler à gauche. Bien sûr, pas en Suisse. Mais en Grande-Bretagne, c'est vrai, les conducteurs doivent rouler à gauche. Par contre, en Suisse, en France, en Italie, à New York, la loi dit de rouler à droite. Maintenant, si je conduisais à gauche dans New York ou à Paris et que l'on m'amène au tribunal, je dirais, voyons, c'est ridicule, car à Londres, on roule à gauche. Ici, il n'est pas question de la loi anglaise, répondrait le juge. Vous serez jugé selon la loi de ce pays, de l'Amérique, ou si vous êtes en France. Puisque le modèle de Dieu, c'est vraiment le seul par lequel je serai jugé, moi, et cela pour l'éternité, j'en suis certain, je suis désespérément perdu. Perdu si je ne suis pas sauvé. Quoi que je pense de ma propre personne et quoi que mes amis disent de moi, je serai tout de même jugé par ce que Dieu a dit. Car voyez-vous, à la vue de Dieu, nous avons tous péché, moi le premier. Il est donc inutile d'implorer l'aide d'un ami, d'un avocat, car nous tous sommes aussi coupables. Mais la Sainte Bible me parle de Jésus-Christ qui se disait le Fils de Dieu. Il a vu que les hommes avaient perdu la vie par le péché. La sienne n'était pas perdue. Or, elle était innocente et parfaite, voyez-vous. Il a voulu donner sa vie pure, absolument pure, sans péché, en échange de la vie des hommes. Et cela, afin que nous soyons libérés. Dans Saint Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous pouvons être assurés du salut. Mais Jésus est-il réellement le Fils de Dieu? Va savoir. Il pourrait simplement l'être, ou bien être un menteur, un homme rempli d'illusions sur lui-même. Des hommes parmi les plus savants ont été mandés pour le piéger dans ses paroles, et il leur riva si bien le clou qu'ils n'ont plus osé poser d'autres questions. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 45. En voyant sa sagesse, on peut constater que Jésus-Christ n'était pas la proie d'illusions. Utilisa-t-il sa si grande sagesse pour tromper le peuple? Avez-vous jamais entendu qu'un homme se mêlant à des coquins devienne pur et honnête? Non, non, non. Mais je connais des hommes qui ont reçu Christ dans leur vie et qui ont passé des plus vils désirs à la plus haute humanité. Le fait de recevoir un coquin dans votre vie ne pourrait pas la changer en bien. Voyez-vous, Jésus-Christ était un homme bon et honnête, et puisqu'il était honnête, il était certainement celui qu'il prétendait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu envoyé pour offrir sa vie immaculée, contre votre vie et la mienne qui sont souillées. Méditez un peu cela. Il est né en dehors des lois de la nature. Il a vécu dans la pauvreté. Il a été élevé dans l'obscurité. Il n'avait aucune valeur, ni formation, ni éducation. Ses proches étaient simples et sans grande influence. Tout bébé, il alarma un roi. Un peu plus tard, il embarrassa ses professeurs. À l'âge adulte, il contrôlait le cours de la nature. Il marcha sur les eaux, il calma les flots. Il guérit des multitudes sans aucun médicament et ne tira pas avantage de ses services. Il n'écrivit jamais de livres, pourtant toutes les librairies du pays ne suffiraient pas à contenir tout ce qui a été écrit sur lui. Il n'a jamais composé de chants, mais plus de chants ont été faits pour lui que pour quiconque au monde. Il n'a jamais fondé d'école. Pourtant, toutes les écoles réunies ont moins d'étudiants qu'il n'en avait. Il n'étudia jamais la médecine, et pourtant il guérit plus de cœurs brisés que tous les docteurs ont guéri de corps brisés. Oui, de grands hommes sont passés, c'est vrai, mais lui, Jésus, il vit encore. Il n'a pas trépassé. On verra ça tout à l'heure. Hérode n'a pas pu le tuer. Satan n'a pas pu le séduire. La mort n'a eu aucun pouvoir pour le détruire. Et la tombe n'a pas pu le retenir. Convaincu que la Sainte Bible est vraie, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, croyant que Dieu m'a aimé au point de l'envoyer volontairement souffrir la peine pour mes péchés, afin que je puisse, moi, être libre, eh bien, je devrais, me semble-t-il, accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Vous pouvez évidemment objecter que malgré la véracité de la Sainte Bible, différentes opinions sont possibles, il est vrai. Soumettez cela à la raison et à un petit test, par exemple. Il y en a qui disent « peu importe ce que croit un homme tant qu'il est sincère dans ses croyances ». C'est pas mal, ça. Mais examinons un peu cette déclaration fulminante. Un dimanche matin, un homme amena sa femme et ses enfants en pique-nique. Il arriva à un passage à niveau et croyant très sincèrement que les trains ne roulaient pas le dimanche, il commença à faire passer sa voiture, mais il fut tué et sa famille très grièvement blessée. Donc sa croyance sincère que la voie était libre le sauva-t-elle? Bien sûr que non. Je connaissais une famille à Échallens, dans le canton de Vaud, en Suisse. La maman, de nombreux enfants, connaissait parfaitement les champignons. Elle les connaissait tous. Un jour, elle était invitée dans le canton de Fribourg. C'est quand même pas à 1000 kilomètres, hein? Et là, elle a ramassé des champignons qui ressemblaient absolument à un champignon qu'elle connaissait bien dans sa région. Or, ce qui est arrivé était terrible. Toute la famille est morte. Toute la famille. Ça a fait un tollé, pas seulement en Suisse, je pense, jusque en Chine peut-être. En tout cas, en Australie, c'est vrai. Voyez-vous, une infirmière croyait très, très sincèrement qu'elle administrait le bon remède à son patient. Elle était très fatiguée, elle a dû travailler plus de 17 heures. On serait à moins de ça fatigué, et parfois les yeux peuvent se troubler, ou si les pensées. Mais voilà, elle a pensé d'administrer le bon remède à son patient, mais elle s'est trompée. Or, en l'espace de 20 minutes, celle-ci est morte. Bien sûr, la sincérité est nécessaire, je suis d'accord. Mais nous devons croire sincèrement à la vérité et non pas dans l'erreur. En fait, croire sincèrement dans l'erreur, cela peut aboutir à nous tromper et à nous détruire. Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Je crois que ce n'est pas Bouddha ni Mohammed qui a dit cela. Voyez-vous, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Si vous pouvez aller au ciel par tout autre moyen, vous pourrez témoigner éternellement que Jésus-Christ disait des mensonges en prétendant qu'il n'est pas et qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il y en a qui pensent et qui croient sincèrement qu'en se faisant sauter comme kamikaze pour tuer des innocents par centaines, qu'ils iront au ciel et qu'ils auront des anges de 12 à 14 ans, je plaisante, qui tourneront autour d'eux. Ça, c'est longtemps pas dit. J'aurais un peu peur de croire cela. Puisque Dieu a prouvé que son Fils était son Fils bien-aimé, le Fils de Dieu. Il n'y a donc aucun danger en le fait de venir à Dieu par Jésus-Christ. La raison réelle pour laquelle nous ne voulons prendre ou ne voulons pas prendre une autre voie est tout simplement que le chemin de la croix est très humiliant. Il faut savoir s'humilier et que nous sommes tous, moi y compris, des orgueilleux. Mais le chemin de la croix, il a été très humiliant pour Christ. Pourtant, il n'en s'est détourné jamais. Non, il a été jusqu'au bout. Chers amis, puis-je honnêtement changer et faire mieux dans mon avenir? Certains disent que si l'on tourne une nouvelle page en promettant de faire mieux, cela pourrait nous rendre admissibles pour le ciel. Est-ce vraiment vrai? Supposons que votre entreprise doive 50 000 euros et que vous ne puissiez pas les payer. Vous écrivez des lettres à tous vos fournisseurs en disant que vous n'allez pas vous laisser ennuyer par des dettes passées, que vous tournez maintenant une nouvelle page et que vous promettez de rembourser toutes les dettes que vous contracterez à l'avenir. Vos fournisseurs penseront que vous avez pété les plombs et ne voudront pas accepter cela. Et pourtant, des milliers de personnes, autrement plus intelligentes essaye de gagner ainsi le ciel. Elle refuse de s'inquiéter du passé, mais Dieu ramène ce qui a disparu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Même si nous commençons à mener une vie absolument parfaite, ce qui est impossible, nous demeurerons des pécheurs. La justice de Dieu exige que toute avance passée, soit payée jusqu'au dernier centime. Donc toutes les choses qu'on a pu commettre dans le passé, c'est ce que je voudrais expliquer, eh bien, cette justice de Dieu exige que tôt ou tard, nous devrons payer. Prenons un meurtrier. Il peut vivre absolument comme un parfait citadin pendant 10 ans. Mais une fois qu'il est découvert, même si ça prend plus de 10 ans, il risque bel et bien d'être condamné. Bien qu'il n'ait tué personne par la suite, il reste tout de même un meurtrier. Dissimuler nos péchés passés derrière ce qui nous semble être une vie parfaite maintenant nous laisse pécheurs à la vue de Dieu. Me marier maintenant avec une deuxième épouse en ayant vécu horriblement avant avec la première et en l'ayant fait souffrir terriblement jusqu'à ce qu'elle en soit morte, croyez-vous qu'avec ma nouvelle épouse, même si je me donne de la peine à être un peu réformé, amélioré, entre guillemets, eh bien, je serai rattrapé tôt ou tard. Ça, vous pouvez me croire. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous lavera de nos péchés. La Sainte Bible dit que Jésus-Christ est le seul qui puisse le faire. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils bien-aimé, selon Romains, chapitre 5, verset 10. Jésus-Christ a donné sa vie à la place des nôtres, et cela afin que nous soyons libérés, que nos fautes anciennes ont été maintenant payées par lui, par Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Les hommes avaient violé les lois de Dieu et le châtiment était la mort. Si Christ n'avait pas payé la totalité du prix, nous aurions encore à subir un châtiment. Mais puisqu'il est mort, la loi que nous avons violée ne nous condamnera plus. La Sainte Bible dit « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Romains 8, verset 1. Dans une affaire traitée en justice qui nécessitait une audience supplémentaire, le juge, en entrant au tribunal, dit au juré « Mesdames et messieurs, l'affaire est close, car le prisonnier est mort cette nuit dans sa cellule. Il n'y avait pas lieu donc de poursuivre quoi que ce soit, puisque la loi, elle ne peut jamais juger un mort. Si quelqu'un tue une personne, il peut être incarcéré à vie. S'il tue 6 personnes, il ne peut subir que la prison à perpétuité, car c'est la peine maximum que la loi puisse infliger, quelles que soient les fautes d'un homme. Je répète, si quelqu'un tue une personne, il peut être incarcéré à vie. S'il tue 6 personnes, il ne peut subir que la prison à perpétuité, car c'est la peine maximum que la loi puisse infliger, quelles que soient les fautes d'un homme. Par conséquent, peu importe si dans ma vie, il y a des péchés que j'ai oubliés depuis longtemps, je ne redoute plus rien d'eux, car Jésus-Christ est lui maintenant mon substitut. C'est lui, Jésus-Christ, qui a subi la peine capitale à ma place, me libérant complètement des exigences de la loi. Il y en a qui pensent, si Jésus est mort pour tous, nous sommes donc tous sauvés. Je répète, il y en a qui pensent, si Jésus est mort pour tous, nous sommes donc tous sauvés. Cela paraît très raisonnable, mais ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Il a dit que le salut est pour tous, et non pas que tous seront sauvés, c'est pas la même chose. Je répète, il a dit que le salut est offert pour tous, mais il n'a pas dit que tous seront sauvés. On peut faire cette comparaison. Au cours d'un hiver particulièrement rigoureux, le chômage augmente et que beaucoup se retrouvent dans une grande misère. Les autorités municipales fournissent des repas. Vous rencontrez dans la rue un homme affamé. Vous lui demandez s'il croit les circulaires. Ces circulaires qui disent que des repas gratuits sont offerts par la municipalité. Alors il répond, oui, je le crois. Je crois même que c'est vrai, mais à l'instant même, j'ai toujours faim. Il faudrait peut-être qu'il se bouge un peu les fesses. Vous lui dites qu'il continuera d'avoir faim tant qu'il ne mangera ni boira ce qui est mis à sa disposition, offert par la municipalité. Voyez-vous, bien que la mort de Jésus-Christ ait offert le salut, sont sauvés seuls ceux qui ont accepté Christ personnellement et qui croient qu'il est mort à leur place. Je répète, bien que la mort de Jésus-Christ ait offert le salut, vont être sauvés seulement ceux qui ont accepté la main tendue de Christ personnellement et qui croient maintenant qu'il est mort à leur place. Je dois donc prendre Christ comme mon sauveur, sinon sa mort ne me sauvera absolument pas. C'est la même chose que lorsque un homme meurt de soif auprès d'une source parce qu'il refuse d'y boire. De quelle manière, voilà encore une question délicate, de quelle manière la vie de Christ est-elle un substitut absolument suffisant pour les nôtres? Eh bien, Dieu connaît toutes choses. Et Dieu est éternel. Dans le livre d'Exode, au début de la Bible, au chapitre 3, verset 14, il dit lui-même, « Je suis celui de hier, d'aujourd'hui et éternellement. » Et Jésus déclare dans Saint Jean, chapitre 8, verset 58, « Avant même qu'Abraham fût, moi, je suis. » Par conséquent, il est Dieu. Il connaît toutes choses et il est éternel. Il n'y a, pour ainsi dire, ni passé, ni futur, mais il y a maintenant seulement un présent qui est éternel. Les événements qui se sont produits voici plus de 2000 ans, ou ceux qui surviendront dans X années, sont aussi clairs que les événements actuels. Pourquoi Dieu a-t-il rendu l'homme susceptible de désobéir et donc de commettre le péché? On pourrait aussi bien se demander pourquoi Dieu ne trace pas une ligne droite autour d'un cercle. L'homme a la capacité de choisir intelligemment, ou si la question réelle est, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait une créature ayant le pouvoir du choix intelligent? Si j'hypnotisais mes fils, les dépouillant de leur liberté de choix conscient, et que je dise maintenant, asseyez-vous. Levez-vous, mangez, arrêtez de manger. Je serai parfaitement obéi, bien sûr. Mais cela me rendrait-il heureux? Non, non, non. Je veux que mes garçons aient leur volonté propre et soient capables de désobéir, mais qu'ils écoutent mes instructions parce qu'ils m'aiment. Je ne peux croire que Dieu se satisfait de moins que cela. Dieu ne souhaite pas avoir des marionnettes qui fassent des bons quand il tire les ficelles, ni des robots qui obéissent automatiquement à sa volonté. Dieu n'est satisfait que de notre amour spontané et de notre décision personnelle de marcher dans les voies qui lui plaisent et qui l'honorent. Nous sommes des créatures humaines, non pas des mécaniques, et ce même pouvoir nous permet de déshonorer Dieu et de le défier si nous le voulons. L'homme est vraiment une créature splendide, bien au-dessus de la création animale. Il n'y a pas, comme il y en a qui disent, et qui se disent tellement super intelligents, il n'y a pas de chaînon manquant, et un gouffre immense sépare l'animal le plus évolué de l'homme. Car Dieu a donné à l'homme le pouvoir prodigieux de lui dire oui ou non, dans votre propre intérêt. Qu'allez-vous dire à Dieu après l'écoute de ce CD? Dieu se préoccupe-t-il de cette petite planète et des hommes? L'immensité des cieux avait fait perdre à un astronaute sa simple foi, car disait-il, « Mais voyons, pourquoi Dieu se préoccuperait-il de l'homme qui n'est qu'un grain de poussière en comparaison? Il étudiait le ciel uniquement pendant la nuit. Puis, ensuite, il se mit à étudier et à utiliser un microscope pour travailler un peu pendant la journée. Et voilà qu'un vaste univers s'offrit à ses pieds, on peut dire des mondes aussi magnifiques que ceux d'en haut. Et petit à petit, sa foi est revenue. Dieu qui peut veiller au moindre détail, au point qu'il a mis de la vie dans la plus petite goutte d'eau, s'intéresse assurément à l'homme qui est la forme la plus élevée de sa création. L'astronaute a constaté que tout était équilibré et c'est cela qui l'a ramené vers Dieu. Après tout, l'apôtre Jean avait raison quand il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Chers amis, la foi est-elle logique? Oui, et c'est une erreur que de croire que la foi s'oppose à la raison. La foi et la raison sont des compagnons, mais la foi poursuit son chemin quand la raison ne peut aller plus loin. La raison dépend pour une grande partie de la foi, car sans la connaissance, il est impossible de raisonner, et la connaissance est largement une question de foi. Par exemple, je crois qu'une grande dose de strychnine, cela peut absolument me tuer. Je n'ai jamais essayé, mais ma foi en ce qui est écrit est telle que je ne prendrai certainement jamais une telle dose. Si vous voulez bien vérifier, vous découvrirez que la plupart des choses que vous connaissez viennent de la foi, car vous ne les avez jamais testées par vous-même. Dieu, voyez-vous, vous jugera, mais l'amour de Dieu retiendra le jugement. Pensez-y toujours. Voyez-vous, Dieu est amour et il veut sauver le pécheur. Dieu est juste. Ou si les péchés méritent une punition, par conséquent, le pécheur doit mourir. Alors comment Dieu conciliera-t-il, va-t-il concilier sa justice et son amour? Oui, voici un problème que la philosophie humaine ne peut résoudre. Mais la sagesse et la miséricorde divine, là, ils trouvent leur place haute, la plus haute expression dans la solution que son Fils Jésus-Christ est mort à notre place. Voyez-vous, dans cette histoire, Dieu a agi comme un juge. Deux hommes étudiaient ensemble la loi. L'un d'eux a pu s'élever jusqu'à un poste au tribunal. Et le second s'est mis à boire et il a totalement gâché sa vie. Et il a mené une vie que j'aimerais pas trop citer ici. Or, un jour, celui-ci fut amené devant son ami pour être jugé. Les membres du tribunal se sont demandés, mais quel genre de justice pourrait administrer le juge à son ami d'autrefois? Or, à leur grande surprise, il infligea à son ami la condamnation la plus lourde prévue par la loi. Ensuite, il paya lui-même l'amende salée et libéra son ami. Dieu contre qui nous avons péché se tient au tribunal et prononcera la plus lourde sentence, la condamnation à mort des pécheurs. Puis dans sa miséricorde, il descendit du ciel en la personne de Jésus-Christ et prit la place des pécheurs en mourant sur la croix à notre place, à ma place. Il nous présente désormais un pardon total et gratuit. Oui, vous pouvez dès maintenant être libéré du péché si vous croyez et acceptez cela. Oh, cela semble tellement simple. Si j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, cela suffira-t-il à me sauver pour l'éternité? Oui. Voyez-vous, et c'est cette simplicité qui est assez dure à comprendre. Mais si je devais 500 euros que je ne puisse rembourser, qu'un ami payait la dette pour moi en me donnant ensuite le reçu, je n'aurai plus à m'en inquiéter, étant en possession de son reçu, je pourrai donc regarder mon créditeur dans les yeux. Quand Jésus a donné sa vie pour la mienne sur la croix, il a dit « Tout est consommé, tout est consommé », signifiant par là que l'œuvre d'expiation était achevée et Dieu m'a donné son reçu. Pour me montrer qu'il était satisfait, il a ressuscité Christ d'entre les morts au troisième jour. « Je ne comprends pas, » dit un jour un ébéniste à un ami qui essayait de lui expliquer tout cela. Et une idée vient à l'ami. Une bonne idée. Saisissant un avion fictif, on appelle cela des modèles, il fit comme s'il voulait le faire atterrir sur le plateau d'une jolie table cirée toute neuve. « Stop ! Ne fais pas ça ! Tu ne vas pas, tu ne vois pas que cette table est complètement terminée ? Tu vas l'abîmer ! C'est ce que a crié l'ébéniste. Tu vas l'abîmer ! Eh bien, c'est exactement ce que j'essaye de te dire. Tout a été terminé quand Jésus a donné sa vie pour toi. Donc, si tu tentes d'y ajouter quelque chose, tu ne feras que tout gâcher. Accepte ce fait tel qu'il est. Sa vie pour les nôtres. Il a donné sa vie pour les nôtres. Maintenant, tu es libre. Et l'ébéniste comprit en un seul éclair. Et ainsi, il reçut Jésus-Christ ce jour-là dans son cœur comme son sauveur personnel. Voici un autre problème. Je connais un homme très bon qui, par bien des aspects, est bien meilleur que certains chrétiens. Dieu préfère-t-il un chrétien pas toujours parfait, un peu branlant parfois, à un homme pourtant très bon, mais qui est totalement athée, qui ne veut rien savoir de Dieu? Ceci m'a embarrassé pendant des années jusqu'à ce que je lise la loi de la biogenèse. Mes difficultés ont alors totalement disparu. La biogenèse est une doctrine affirmant que des organismes vivants ne peuvent se créer qu'à partir d'organismes existants. Il ne peut y avoir de vie là où il n'y avait de vie auparavant. La vie qui se crée spontanément, cela n'existe pas. Jésus ne faisait que énoncer un simple fait scientifique quand il a dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut donc que vous naissiez de nouveau, selon Saint Jean chapitre 3, versets 6 et 7. Un chrétien n'est physiquement pas différent d'un non-chrétien. Il est différent de style, tout comme sont différents un diamant et une laitue. L'un est poli, l'autre cru. L'un est mort, mais l'autre est vivant. L'un a ce que l'autre ne possède en aucun cas, la vie. C'est donc cette différence que Dieu constate entre un chrétien et un non-chrétien. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, même s'il est un homme bon, n'a tout simplement pas la vie. Si vous voulez, son corps est vivant, mais son âme est morte. C'est un mort-vivant. Notez Saint Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. La question cruciale est, suis-je vivant ou suis-je mort aux yeux de Dieu? Ai-je reçu le Fils de Dieu dans ma vie ou ne l'ai-je pas reçu, étant classé ainsi par Dieu parmi ceux qui n'ont pas la vie? Comment puis-je recevoir Jésus-Christ comme mon Sauveur? Est-ce que je crois vraiment qu'il a donné sa vie en substitution à la mienne? Voyez-vous, si vous considérez avec sympathie les souffrances physiques de Christ jusqu'à ce que les larmes vont couler de vos yeux, seulement alors vous avez misérablement manqué de comprendre la véritable signification de la croix. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour moi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Pensez en quel honneur le Dieu très saint tient le péché. Et comprenez pourquoi Christ se détourne du péché avec répugnance et crie « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux moi, mais comme tu veux toi. » Saint Matthieu, chapitre 26, verset 39. Cependant, malgré ce cri d'agonie, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Rejetez-vous maintenant celui qui a tant souffert pour vous? Vous avez médité toutes ces choses. Vous en avez été profondément bouleversé. Maintenant, elles en appellent à votre volonté de décision. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prendre Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Il a porté tous vos péchés. Il est maintenant présent. L'accepterez-vous comme votre Sauveur et Seigneur personnel? Vous dites tout ce mystère me déconcerte. Laissez-là le mystère. Nous ne pouvons le comprendre. Mais réjouissez-vous du fait. L'électricité demeure un mystère et je connais bien les lois qui la gouvernent, mais je ne peux comprendre ce qu'elle est. Donc ne vous inquiétez pas des mystères de l'électricité. Acceptez simplement ses avantages. De même, ne vous inquiétez pas du mystère de Christ, mais acceptez ses avantages et devenez une nouvelle personne en Jésus-Christ. C'est aussi simple que d'allumer une lampe. Dites simplement, « Dieu, mon Père, je ne comprends pas pourquoi tu te soucies tant de moi, au point que tu as envoyé Jésus-Christ pour subir la peine de mes péchés. Mais je veux m'offrir à toi tout entier. Je crois maintenant qu'il est mort pour moi et je crois la promesse que tu as faite en Saint Jean chapitre 3 verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donnez-vous donc maintenant à Dieu. Il attend d'entrer dans votre vie. Dites, je suis à toi maintenant, Seigneur Jésus. Je me donne à toi tout entier, mon corps, mon âme et mon esprit sont maintenant à toi. Et voici ma décision. Devant Dieu, qui connaît mes plus intimes pensées, je confesse que je suis un pécheur et je veux changer ma vie. J'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Je me dédie entièrement à lui. Je connais ses paroles dans Saint Jean chapitre 5 verset 24 et je sais que j'ai maintenant la vie éternelle car il a dit que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et donc ne vient pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie. Une fois cette décision prise, renouez la confiance en écoutant encore une fois ce CD et les différentes explications. Ces explications qui vous semblent un peu comme un brouillard, mais vous ces explications vous sembleront beaucoup plus claires. Et commencez surtout à lire l'Évangile selon Saint Jean, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, j'ai dû lire l'évangile de Saint Jean 3 fois, tellement que j'étais peut-être pas très intelligent, j'ai voulu dire tellement que j'étais bête, pour enfin comprendre que j'étais perdu. Or ma femme, beaucoup plus évoluée, elle a dû le lire seulement 1 fois, puis elle a tout compris. Mais même si il y en a 1 sur 1000 qui serait au même niveau que j'étais, eh bien, lisez-le 3 fois, comme j'ai dû le faire. Dernier point très important, la Sainte Bible dit « Quiconque croit en lui n'aura pas honte ». Vous dites que vous avez accepté Christ, eh bien allez l'annoncer à d'autres. N'ayez pas honte de confesser qu'il est votre sauveur maintenant. C'est un privilège que de partager votre nouvelle foi avec d'autres qui pourront également recevoir Christ. Le choix du soldat, écoutez ça. J'étais en train de tenter d'amener un soldat à accepter Christ, mais il essayait de s'échapper avec cette promesse. Je vais y réfléchir. Harry, dis-je, suppose que tu sortes une nuit en éclaireur pour étudier les positions de l'ennemi. Tu es blessé sur le chemin du retour. Un autre soldat te transporte à l'hôpital. Plus tard, l'infirmière installe un autre lit près de toi et elle te dit « Harry, je veux te présenter Bill Smith qui a risqué sa vie pour sauver la tienne. » Tu pourrais déclarer « Je ne suis pas sûr de vouloir le rencontrer. Je vais y réfléchir. » Tu ne dirais jamais cela. Oh non, n'est-ce pas? Tu lui saisirais la main et tu lui témoignerais toute ta reconnaissance. C'est ce que je ferais également. Eh bien, je veux te présenter maintenant à Jésus-Christ, qui non seulement a risqué sa vie, mais il s'est sacrifié pour te sauver. Mais tu lui tournes le dos et tu dis, je veux y réfléchir encore un peu. Non, non, non. Il a répondu, heureusement, je l'accepte. Je l'accepte. Et nous nous sommes agenouillés pendant qu'il confessait le Seigneur comme son sauveur personnel. Et vous, allez-vous y réfléchir? Ou bien avez-vous pris votre décision et choisi la voie que vous devez suivre? Chers amis, pour terminer, la vieille histoire est la suivante. Demain, promettait-il à sa conscience, demain, je croirai peut-être. Demain, je penserai comme je le dois. Demain, j'adopterai les habitudes qui conduisent l'homme au ciel. Mais sans cesse, sa conscience répétait un mot sérieux, un seul. C'est aujourd'hui et pas demain. Ta jeunesse est passée comme un rêve. L'âge et les passions ont inscrit sur ton front le message du destin. Et des ombres est venue la mort, avec ce mot impitoyable « c'est maintenant que tu dois te décider, car dans un instant, la mort te rattrapera. Amen. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble et j'espère que vous avez de quoi, avec toutes ces études, de venir vraiment à la vérité, à Jésus-Christ. Éternel Dieu, origine et source de la vie, toi qui es la vie, toi qui donnes la vie, tu nous accordes au milieu de ce monde mortel et transitoire la certitude de la foi et de l'espérance, nous assurant que notre esprit s'enracine en toi, participe à ton essence et se trouve affranchi de la domination de la mort, grâce t'en soit rendue de la vie victorieuse. Nous le savons maintenant, comme Jésus-Christ le chef est le consommateur de notre foi, notre enveloppe périssable verra le tombeau. Mais nous ne le croyons aussi, comme il a vaincu la mort et a pénétré aux éternelles demeures de ta magnificence, eh bien nous aussi, nous vivrons et nous parviendrons auprès de toi pour atteindre en Christ la perfection, l'harmonie, l'accomplissement de notre destinée en ton céleste royaume. Aide-nous à demeurer fermes dans la foi, en la vie qui vient de toi, ô Dieu, et que ne saurait vaincre aucune mort. Rends-nous assurés que rien ne peut nous séparer de toi qui es la vie, et gonfle nos cœurs de la merveilleuse espérance, de la certitude inébranlable de la vie éternelle et complète auprès de toi et en toi. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.